Le retour.
Méfiez-vous.
De Radio X.
C'est un conseil d'ami que je vous donne.
Avec DH, Jordan et Mel Trudel.
Radio X.
Hey, bientôt à 17h, on va aller faire un tour 5 heures dans le temps parce qu'il est 10h, 22h en France, à Lyon en France. On va jaser avec un collaborateur de, je vous parle souvent de la chaîne télé que toi aussi tu regardes.
Oui.
Peut-être toi-même aussi, est-ce que tu regardes?
Bien sûr, j'ai commencé à regarder ça grâce à toi.
Oui, bon, je sais que Dominique Morin aussi écoute beaucoup LCI. Oui. C'est un consultant géopolitique et défense, auteur du livre « La Russie de Poutine contre l'Occident ». Il s'appelle Aurélien Duchesne. Monsieur Duchesne ou Aurélien, merci d'être là à l'antenne de Radio X ce soir.
Bonjour, enfin bonsoir depuis la France, mais bonjour à vous.
Je pense que vous aimez, vous n'êtes jamais venu ici au Québec, mais vous aimez, vous êtes curieux sur le Québec, c'est ça?
Je vais bientôt remédier au fait de ne jamais être venu dans la belle province, mais effectivement passionné par la Nouvelle-France et le Québec depuis l'adolescence.
Voilà. Quand vous allez venir ici, c'est sûr qu'on va vous recevoir en studio, là.
Avec plaisir, écoutez.
Je vous lance tout de suite dans le sujet, c'est-à-dire la fameuse guerre entre les États-Unis, Israël et aussi l'Iran. Comment qu'elle est perçue, comment qu'elle est vue, cette guerre-là, en France?
Déjà, je dirais qu'il faudrait désormais parler d'une troisième guerre du Golfe. Quand on regarde le nombre de pays impliqués, ne serait-ce que par la quinzaine de pays qui ont été frappés soit par l'Iran, soit par les groupes affiliés à l'Iran, comme le Hezbollah ou les djihadistes en Irak, on peut parler d'une troisième guerre du Golfe. La perception française, il y a d'un côté ceux qui, en général, par anti-américanisme, disent que c'est une folie américaine de plus, et que même s'il y a un consensus en France contre le régime islamiste de Téhéran, beaucoup disent qu'il valait mieux garder un régime dictatorial que de risquer le chaos comme en Irak. Et puis, il y a de l'autre côté, alors moi je serais plutôt de ceux qui disent que, ben, il y a une légitimité à intervenir contre ce régime. D'une part, parce qu'on parle d'un régime qui a quand même tué 30 ou 40 000 de ses citoyens en janvier dans les manifestations. La France a déjà par le passé recouru à ce qu'on appelle souvent en France la responsabilité de protéger. D'ailleurs, je sais qu'un de vos universitaires, Ronald Atto, a beaucoup écrit sur le droit d'intervention humanitaire. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent en France pour dire que même si c'est une guerre qui crée le chaos à court terme sur le plan économique, de l'autre côté, au bout de 47 ans, on ne pouvait plus laisser agir le régime iranien. Voilà. Donc le débat aujourd'hui en France, il est plutôt sur 2-1. Est-ce qu'on doit considérer que c'est une guerre américaine de plus, ou est-ce qu'on considère que c'est un problème qui concerne tout le monde? Et deuxièmement, c'est certes une guerre qui est illégale au sens où elle ne s'appuie pas sur un mandat de l'Organisation des Nations Unies, mais est-elle pour autant illégitime si on parle de la morale et si on parle des menaces de sécurité?
Est-ce que tu es surpris de l'ampleur quand même de la réplique, la ténacité de l'Iran qui continue à bombarder Israël, puis ça a été spectaculaire là, dans les dernières heures, bombarde aussi à la fois plusieurs pays du Golfe? T'sais, on se disait que 48, peut-être quelques jours, ça va être réglé, il ne se passera plus rien et le régime sera renversé, mais au contraire, l'Iran est surprenant.
Alors, j'avoue avoir été un peu trop optimiste sur le fait que, pour moi, le régime iranien allait commencer à être beaucoup plus fragilisé. Par contre, j'avais beaucoup dit, avant le début de la guerre, que il fallait pas sous-estimer la capacité de l'Iran à riposter. Cela dit, quelque chose qu'il était quand même très difficile à anticiper, qu'on pouvait pas imaginer, c'était cette stratégie du fou qu'applique l'Iran.
C'est-à-dire
on pouvait imaginer la stratégie du fou, c'est littéralement l'expression « retenez-moi ou je fais un malheur » appliquée à la géopolitique. La stratégie du fou, c'est de frapper premièrement là où personne ne vous attend. Pour donner un exemple, le sultanat d'Oman. Oman, qui était le médiateur diplomatique entre l'Iran et les États-Unis, se prend des missiles iraniens dès le premier jour. Ils envoient des félicitations officielles de la part du sultan au nouveau guide suprême, dont on ne sait même pas l'état de santé d'ailleurs, Mojtaba Khamenei, ils se prennent à nouveau des missiles iraniens. Ça peut paraître complètement fou, mais la stratégie du fou, l'aspect rationnel, c'est que ça crée une incertitude totale dans la région. Et l'autre stratégie du fou, c'est que dans les premiers jours des frappes contre les Émirats arabes unis, personne ne s'y attendait, y compris d'ailleurs les soldats français basés sur les bases à Abu Dhabi. Ils se disaient qu'il y aurait des dégâts collatéraux, périphériques à gérer, mais pas qu'il y aurait des frappes aussi massives. Et les Américains eux-mêmes se disaient « mais jamais l'Iran va envoyer 600 drones en une nuit sur Dubaï, c'est ce que l'Iran a fait ». Là, on voit que la stratégie du fou…
600 drones en une nuit.
C'est ce que subissent les Ukrainiens toutes les nuits de la part des Russes. Sauf que les Américains ne s'y attendaient pas parce que leurs renseignements estimaient que les Iraniens n'avaient pas assez de drones. Ils en ont beaucoup plus que ça. Et cette stratégie du fou, là où elle est efficace, c'est que quand l'Iran se met à attaquer, par exemple, des pétroliers, y compris des pétroliers de pays asiatiques et européens, totalement extérieurs au conflit, il commence à créer la panique, y compris sur les marchés financiers. Et quand je parlais au début du fait qu'on soit dans une troisième guerre du Golfe, si on demande à n'importe qui, là, si je demandais à quelqu'un dans les rues de Lyon là, ce qu'il pense de la guerre en Iran, la première réaction, ce sera sur les prix du pétrole. La stratégie du fou, quand il s'agit de faire paniquer le monde entier et qu'on oublie qu'à la base, on parle d'un régime qui tue des dizaines de milliers de gens et qu'on se met à penser plutôt au prix du pétrole, du galon, comme on disait aux États-Unis, la stratégie du fou, elle marche.
Parce que Trump se vantait avec Netanyahou d'avoir quasiment rayé le régime, les hautes têtes dirigeantes. Pourtant, ça continue, là. Je dis, d'une nuit à l'autre, ça continue à bombarder. Puis là, j'ai comme l'impression, Aurélien, que c'est même un peu l'Iran. Puis c'est pas ce que je souhaite, bien au contraire, mais je sens que l'Iran a un certain pouvoir sur les Américains et sur Donald Trump. Ils ont même dit que ça va coûter 100 milliards. Si vous voulez qu'on arrête, là, tu sais, qu'il y ait un traité de paix possible, là, 100 milliards en reconstruction. On parle aussi d'aucune base américaine dans les pays du Golfe, 2 millions en taxes, et aussi, ça serait terminé de frapper. On demande à Israël d'arrêter de frapper le Hezbollah. C'est impossible que Israël et aussi les Américains accèdent à ces demandes-là.
Autant on imagine bien que ce qui est demandé aux Américains est inacceptable sur les bases dans le Golfe, autant la question d'un deal financier en réalité peut être entendable pour Donald Trump. Alors ce serait paradoxal parce que il avait déchiré l'accord nucléaire iranien obtenu en 2015, notamment par les pays européens, parce qu'il estimait que ça profitait aux Européens économiquement. Il serait prêt demain à refaire un deal financier avec l'Iran si ça lui permet de hâter la fin de la guerre. Vous renoncez au programme nucléaire et en échange, on relâche la pression sur le plan économique. Certains vont dire que jamais Trump ne fera ça. Il faudra qu'il nous explique pourquoi le secrétaire d'État américain au Trésor, Scott Bessent, a proposé de lever des sanctions sur le pétrole iranien. Pour la première fois depuis 47 ans. J'ai cherché des exemples historiques d'un pays qui accepte de financer la guerre du pays ennemi. J'en ai trouvé un seul, c'est Napoléon qui accepte de financer indirectement la Banque d'Angleterre en espérant un changement de régime. C'est du délire. Sauf que ça peut arriver. On a quand même bien un Donald Trump qui a accepté des propositions à la base de Vladimir Poutine où c'était les Européens qui payaient 100% de la reconstruction de l'Ukraine. Donc ça peut arriver. Évidemment, de l'autre côté, Israël n'acceptera jamais rien. Et le dernier aspect, enfin, que vous évoquiez sur la question, par exemple, de mettre un droit de passage, en fait, sur les bateaux du détroit d'Ormuz, on voit quand même quelque chose que, pour le coup, les Américains n'ont pas prévu sur le plan militaire. J'ai regardé la dernière fois qu'il y avait des bateaux type minesweeper, dragueur de mines, guerre des mines, etc. dans le Moyen-Orient. Ça tombe bien, c'était en 2025. Et l'US Navy a supprimé plusieurs bateaux de guerre des mines. C'est quand même con au moment où l'Iran a besoin de seulement 600 mines pour miner tout le détroit d'Ormuz. Et des mines, ils en ont au moins 3000. Donc, en termes d'anticipation, ils n'ont pas prévu à quel point l'Iran était prêt à aller loin en termes de stratégie de rendre impossible le passage dans le détroit.
Et là, ben, ce qui circule, là, c'est que l'armée américaine se préparait à envoyer environ 3000 soldats parachutistes, là, qui est l'unité aéroportée vers le Moyen-Orient. Ouais. Est-ce que ça veut dire concrètement que des troupes au sol, là, ça va s'en venir pour le contexte actuel en Iran?
À mon sens, c'est le plus probable. Alors déjà, pour une raison politique, c'est que si on raisonne un peu dans l'immédiat, on a tendance à se dire « mais Trump ne voudra pas envoyer de troupes au sol, ça veut dire des soldats américains morts et c'est inacceptable ». Mais si on raisonne autrement et qu'on se dit que Trump, ce qu'il veut, c'est d'abord gagner les prochaines élections de midterms contre les démocrates, bah, la dernière fois que les Américains ont envoyé des troupes en Iran en 1980, c'était un fiasco total pour libérer les otages de l'ambassade américaine à Téhéran. Ça a été une des raisons de la défaite des démocrates de Jimmy Carter face à Reagan. Trump serait tellement tenté de pouvoir montrer sur Fox News que des soldats américains ont réussi en Iran sous lui, sous Trump. Rien que ça justifie, à mon sens, qu'il envoie des troupes au sol. Et quand vous regardez les scénarios, il y en a un qui est extrêmement probable, c'est l'île de Karg, dans le nord du golfe Persique. Ouais. À 50 km du littoral iranien, cette île de Karg, elle fait à peine 6 km de long, donc c'est assez prenable, et ça tombe bien, les Américains ont détruit toutes les défenses aériennes, et 80 à 85% des exportations de pétrole passent par cette île parce qu'il y a un gros terminal pétrolier.
Donc, ils prendraient le contrôle de ce terminal-là, et là, ça pourrait faire mal à l'Iran, là.
Bah, ça permettrait, s'ils prennent cette île, de mettre une pression énorme sur l'Iran et de lui couper un tiers de ses revenus en quelques jours. Donc ça ferait quand même très mal. Il y a un autre scénario qui sera très efficace, mais qui coûtera beaucoup de pertes humaines aux Américains. Il faudra assumer au moins des dizaines de morts. Ce serait d'intervenir au sol, par exemple, avec une division américaine dont on parle beaucoup. C'est la 82e division aéroportée. Celle-là, on la connaît parce que, bah, d'ailleurs, elle a combattu les Canadiens en Normandie. Et elle pourrait être déployée sur le littoral iranien dans le détroit d'Ormuz pour empêcher les Iraniens de bloquer tout le détroit et de faire une catastrophe économique. Et puis, il y a une troisième option. Là, ce n'est pas 3000 hommes qu'il faudra, c'est des milliers d'hommes. C'est si les Américains veulent en finir avec les Israéliens du programme nucléaire. Ça, c'est aussi une option qui est clairement sur la table côté israélien. L'idée que le programme nucléaire iranien, si on veut le détruire, il faut aller au sol.
Ben oui.
Il faut aller récupérer 440 kilos d'uranium enrichi à 60%. Et ben ça, la question, c'est les Israéliens sont clairement prêts. J'ai échangé il y a encore 5 jours avec un ancien membre des forces spéciales israéliennes qui me disait que les Israéliens sont prêts à perdre beaucoup d'hommes pour ça. La question, c'est est-ce que les Américains sont prêts à perdre des hommes, beaucoup d'hommes, pour récupérer l'uranium iranien?
C'est sûr que politiquement, Trump va peser le pour et le contre. Je veux, comme dernière question, moi, te poser justement le président, le Mohammad Khalifbaf, président Khalifbaf du Parlement iranien. C'est avec lui que Trump ou l'équipe de Trump, l'administration, dans l'entourage de Donald Trump, c'est avec lui qu'on discuterait. Qu'est-ce qu'on en sait de ce type-là? Parce que de ce que je peux lire et ce que j'ai entendu, c'est pas un doux, là.
Ah ben, c'est un ultra-conservateur. Alors, c'est vrai, quand on parle des modérés en Iran, oui, enfin, c'est-à-dire que c'est des degrés dans la persécution des homosexuels, la lapidation des femmes ou la haine des juifs. Voilà. Et modérés dans le régime iranien, on se demande ce que c'est. Mais lui, Khalifbaf, il a un avantage, c'est que, bon, ben, de un, il peut parler au nom et des religieux et des politiques et de l'appareil de sécurité et de répression. Il connaît les trois milieux. Il y en avait un autre qui incarnait un peu ça, c'était Ali Larijani, mais il a été tué. Il était considéré comme le principal interlocuteur potentiel des Américains parce qu'il avait une expérience déjà de négociation dans le nucléaire, y compris avec les Français. Sauf que, bon, ben, il ne pourra pas négocier depuis l'au-delà. Donc, Khalifbaf, ça reste une dernière option. Cela dit, il y a une grosse inconnue, c'est que Khalifbaf, c'est une figure connue, mais on ne sait pas qui dirige vraiment dans l'ombre. Certains estiment, parmi les experts de l'Iran, que c'est par exemple un certain Alireza Arafi, qui lui est vraiment un religieux pur jus, qui aurait la réalité du contrôle du régime derrière. Donc, on n'arrive pas à savoir qui est vraiment le vrai dirigeant de l'Iran, vu que, bon, on part tous du fait que Mojtaba Rahmanei n'est pas spécialement en état de diriger. La question, c'est qui est-ce qui donne vraiment les ordres? Et ça, pour l'instant, c'est difficile de savoir.
En 30 secondes, avant de vous laisser aller, comment, toi, tu perçois les 15 prochains jours? Comment tu vois ça dans ta boule de cristal?
Parce que Trump avait donné un délai de 4 semaines aussi, il ne faut pas oublier ça. Là.
Oui.
Ben dans les 15 prochains jours, on aura définitivement au moins 5 000 Marines qui vont arriver avec des éléments amphibies de débarquement et d'opérations aéroportées. Et dans les 15 prochains jours, on va voir aussi si les Israéliens veulent aller au bout de commencer à éliminer beaucoup plus violemment l'appareil politique iranien. Et dans les 15 jours, c'est le moment où Trump peut se décider à aller ou pas au sol, ou au contraire à dire « c'est aller trop loin, j'ai peur des prix du pétrole et je veux négocier ». Et là, et je suis déjà trop long pour 30 secondes, la question qu'il faudra se poser d'ici la fin du mois peut-être, d'avril, ce sera est-ce que les Israéliens vont vouloir aller au bout, là où les Américains voudront s'arrêter.
Aurélien Duchesne, merci beaucoup d'avoir partagé les 15 dernières minutes avec nous.
Ben, c'était un plaisir, merci encore.
Merci, bye.
Le retour de Radio X. Radio X.